députée Marie Bouédam.
La reine a décidé à contre-cœur de ne pas assister à l'ouverture officielle, explique le communiqué de Buckingham. La raison, ses difficultés à se déplacer. Elle aurait dû faire le trajet jusqu'à Westminster. Depuis le début de son règne, elle n'a manqué que deux fois le rendez-vous.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible. J'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui Yvan et moi, nous allons vous parler de Vie et Destin, un énorme roman de Vassili Grossman, qui est un écrivain soviétique. Ce roman est lourd et épais, comme le poids d'un passé qu'on ne peut effacer.
C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin de deux émissions pour achever cette lecture. Voici donc la première partie.
Voilà, quand j'ai terminé ce livre, il y a environ 4 ans, je me suis dit, je rendrai hommage à cet homme, Vassili Grossman, qui a su, avec tant de lucidité, évoquer les questions de la guerre de 40-45, les différentes facettes du communisme, qui a pu, avec tant d'humanité, peindre le courage et la lâcheté, quelquefois lovés au sein d'un même homme ou d'une même femme. Le hasard a fait que, dînant chez des amis, un des convives s'est écrié « Ah, Stalingrad, Stalingrad !» Si le rapport de force entre les troupes nazies et les forces alliées n'avait pas basculé à ce moment-là, nous serions peut-être encore sous le joug hitlérien. C'est bien autour et dans Stalingrad qu'est arrimée cette œuvre. Le cœur de la bataille se situe entre septembre 1942 et fin janvier 1943. Mais septembre 1942, c'est aussi la mise en place d'un crime de masse organisé pour l'extermination des Juifs d'Europe de manière concrète et fonctionnelle. C'est un autre pôle du roman de Vassili Grossman, Vie et Destin. Quelques informations importantes maintenant pour faire connaissance avec Vassili Grossman. Né avec le début du siècle, en 1905, d'une famille juive russe assimilée, Vassili Grossman est un scientifique, un ingénieur chimiste. Son premier poste se situe dans le bassin minier du Donbass en Ukraine, qui jouxte l'Union soviétique. C'est quand il atteint la trentaine qu'il décide de se mettre à écrire et qu'il va quitter son métier d'ingénieur pour celui d'écrivain. Persuadé au départ du bien fondé du communisme, il ne remet pas en question le régime et ses premiers textes lui valent de faire partie de la célèbre Union des écrivains soviétiques. Mais entre 1936 et 1938, l'heure des purges staliniennes a sonné. Cela veut dire des milliers d'arrestations, de déportations et de fusillades. En particulier pour lui, sa femme est arrêtée parce que son premier mari avait été exécuté en 1937. Il intervient auprès du responsable du NKVD, c'est-à-dire le commissariat et la police de l'Union soviétique de l'époque. Donc auprès du responsable, il s'appelle Gejov, et il parvient à la faire libérer. Mais parallèlement, il est contraint de signer une pétition contre les vieux militants communistes bolcheviques, accusés de trahison, déportés ou fusillés. C'est une bien triste période. Quand la guerre arrive, l'Allemagne envahit en effet l'URSS le 22 juin 1941. Le voici nommé sur le front en tant que journaliste, reporter de guerre. Il écrit pour le journal L'Étoile Rouge. Il est envoyé en août 1942 à Stalingrad, alors que la 6e armée allemande menace la ville. Il passe, mêlé au bombardement, des mois terribles de tirs, de froid, de bombes. Il est remplacé en janvier 1943. Et dans une lettre à son père, il écrit :
Demain, je fais mes adieux à Stalingrad et je prends la route pour Kotelnikovo et Elista. Je pars avec un tel sentiment de tristesse, c'est comme si je disais adieu à un être cher, tellement sont liés à cette ville de sentiments, de pensées, d'émotions douloureuses et importantes, exténuantes mais inoubliables. La ville est devenue pour moi une personne vivante.
Au cours de la guerre, il décide de travailler avec Ilya Ehrenburg dans le cadre du comité antifasciste juif, pour élaborer un livre noir sur les crimes commis par les nazis en Ukraine et sur la partie ouest de l'URSS. Il découvre alors que sa mère a été assassinée avec les 35 000 juifs de la ville de Berditchev en Ukraine où elle vivait. Puis il continue à marcher avec les troupes soviétiques au sud, c'est sur Odessa qui va être libérée, puis vers le nord de l'Europe, en Biélorussie et en Pologne, avec la découverte des camps de concentration et d'extermination de Majdanek, près de Lublin, et de Treblinka, en Pologne. Puis, il continue avec les troupes soviétiques et il marche sur Berlin. Il est décoré de l'ordre du drapeau rouge et de l'étoile rouge. Cependant, Grossmann refuse d'être membre du Parti communiste. Mais, après la guerre, à partir de 1948, l'antisémitisme soviétique renaît. La publication du livre noir est alors interdite. Le parti lance une campagne contre le cosmopolite sans racines, c'est-à-dire le juif. Jdanov règne en maître sur la production artistique qui est extrêmement contrôlée. Vassili Grossman publie le premier tome de sa fresque sur la famille russe Chapochnikov dans « Pour une juste cause » qui paraît en 1952. Il est alors menacé. Très heureusement, Staline meurt en 1953 et Grossman se remet au travail et achève en 1960 ce deuxième tome dont nous allons parler, qui est « Vie et destin ». Quand il décide de faire publier son roman en 1962, le livre et ses copies sont saisis par le KGB, c'est-à-dire par la police soviétique. Il meurt 2 ans plus tard, en 1964, dans une grande gêne matérielle. Son optique est, on s'en doute, dans ce deuxième tome, Vie et destin, de plus en plus critique et de plus en plus lucide à l'égard du régime. Le manuscrit est donc confisqué, mais les miracles existent. Un ami retrouve des brouillons très élaborés. Le mathématicien Sakharov, prix Nobel, en fait des microfilms. Deux amis soviétiques les sortent ces microfilms d'Union soviétique et les portent en Suisse. C'est donc en 1980 que Vie et destin est publié en Suisse et c'est en 1989 qu'il est enfin publié en Russie, 27 ans après sa confiscation. Voilà, il est temps d'aborder le roman lui-même. C'est un roman donc de 800 pages, éclaté en différents lieux, avec les personnages qui y vivent. Nous assistons donc à une sorte de tressage où les personnages apparaissent, puis disparaissent, pour laisser place à d'autres. À travers ces personnages, dont la plupart appartiennent à une même famille, la famille Chapochnikov, comme je l'ai dit avant, ce sont les différents problèmes, les différents visages du communisme, de la société soviétique ou allemande qui prennent corps, qui se trouvent incarnés. Plusieurs générations sont représentées, par exemple celle d'Alexandra Vladimirovna, qui est la grand-mère, jusqu'à l'adolescente Nadia, jusqu'au bébé qui naît en pleine guerre au milieu de la Volga. Sont mêlées également des figures historiques qui ont existé et de nombreuses figures fictives. Ainsi s'entremêle l'évocation de plusieurs lieux. D'une part, le camp de concentration allemand avec des prisonniers russes. Au centre, la ville de Stalingrad avec les généraux célèbres qui ont contribué à la victoire. On trouve un personnage très important à Stalingrad dans la maison 6 bis, il s'agit de Grekov. Nous avons aussi Kazan, à 300 km au sud de Moscou, où sont réfugiés les scientifiques moscovites le temps de la bataille, et on y trouve la famille Chapochnikov. Et Stroum, le personnage principal. On se retrouve aussi à Moscou, au moment où les rapatriés de Kazan retournent dans la capitale, et c'est là que se trouve le laboratoire de Stroum, de tous les scientifiques et des laborantins. Enfin, dans un dernier temps, on trouve le camp du goulag russe avec certains personnages qui ont été inquiétés, jugés dangereux ou dissidents. Il y a dans ce roman un désir de tout embrasser. Du fonctionnaire du parti, qui part le cœur serré en quittant ses enfants, à cette femme ukrainienne qui secourt un ancien ennemi, de l'idéologie bolchévique à l'analyse critique de la politique de Staline, de l'amour pour une femme ou pour un homme, à la joie de se battre pour la patrie ou pour une liberté à reconquérir. Beaucoup de ces facettes sont incarnées par les paroles des personnages ou dans les méditations de l'auteur, hors de la narration romanesque. Réflexion sur le bien et la bonté, par exemple, réflexion sur l'antisémitisme, qui sont faits donc hors personnage. Dans ce désir de tout embrasser et de mêler de la réflexion aux intrigues romanesques, il rejoint la grande tradition russe des auteurs comme Tolstoï, Dostoïevski et Tchekhov. Je vous propose un itinéraire à travers les thèmes principaux du roman et à cette occasion, nous pourrons découvrir certains personnages. Le premier thème qui m'a paru récurrent dans l'œuvre, c'est la peur. Elle y prend différents visages. Il y a la peur dominante et radicale, qui est tout simplement cette peur partagée, qui est la peur de mourir, et qui fédère d'autres craintes plus anodines. Voici la dernière lettre d'Anna Semyonovna, mère de Stroum, qu'elle écrit à son fils. Elle vient d'être reléguée en tant que juive dans le ghetto de Berditchev et attend de manière imminente son triste sort.
La nuit dans le ghetto est un temps à part. Tu te souviens, mon fils, je t'ai toujours appris à me dire la vérité. Mais une mère doit, elle aussi, la vérité à son fils. Ne t'imagine pas, Vitya, que ta mère soit une femme forte. Je suis faible, je crains la douleur et j'ai peur quand je vais chez le dentiste. Quand j'étais petite fille, j'avais peur du tonnerre, j'avais peur du noir. Une fois vieille, j'ai eu peur de la maladie, de la solitude. Je craignais que, malade, je ne puisse plus travailler et que je devienne une charge pour toi, que tu me le fasses sentir. Je craignais la guerre. Maintenant, la nuit, je suis prise d'une panique qui me gèle le cœur. La mort m'attend. J'ai envie d'appeler au secours.
Et en effet, Anna Semyonovna n'a pas peur pour rien puisqu'elle sera liquidée d'une balle dans la tête quelques jours plus tard. Mais, paradoxalement, là où on pourrait avoir la plus grande peur, règne au contraire un sentiment de confiance. Ainsi, à Stalingrad, une jeune femme très jeune, 18-20 ans, chargée des transmissions radio, la jeune Katia, peut craindre d'être au premier rang des tirs quand on l'affecte à la maison 6 bis, point de mire de tous les tirs allemands. Or, très étrangement, la peur disparaît. Au bataillon, la peur était plus intense et Katia se dit que l'officier avait bu moins pour s'amuser que pour étouffer une terreur insupportable, pour oublier sa fragilité. Mais maintenant, elle était assise sur un tas de briques dans la maison numéro 6 bis et elle ne savait pas pourquoi. Elle n'éprouvait aucune crainte. Elle pensait à sa merveilleuse vie d'avant-guerre. Dans la maison encerclée, les hommes semblaient particulièrement forts, sûrs d'eux, et cette assurance apaisait. Cependant, malgré cette possibilité de ne pas éprouver de crainte, ou cette possibilité aussi de la surmonter, il règne dans cette URSS de 1942 une peur quotidienne, insurmontable, irrépressible, c'est la peur d'État.
Les gens savent vaincre la peur. Les gosses se résolvent à marcher dans le noir. Les soldats vont au combat. De jeunes gars sautent dans le vide en parachute. Mais cette peur particulière, pesante, insurmontable pour des millions de personnes, cette peur d'État.
En raison de cette peur, la parole est muselée.
Un jour, alors qu'il était étudiant en dernière année, Strom dit soudain à son camarade de cours « Impossible à lire, c'est d'un ennui mortel !» et jeta par terre la Pravda qu'il lisait. Peine l'eut-il dit qu'il se sentit gagné par la peur. Il ramassa le journal, l'épousseta, fit un petit sourire étonnant de bassesse. Quelques jours plus tard, il tendit à ce même camarade un numéro de la Pravda et dit d'un petit ton animé « Dis donc, Grisha, tu devrais lire l'éditorial, c'est drôlement bien. » Le camarade prit le journal et dit d'un ton apitoyé « Notre Vitya, c'est-à-dire Strum, était peureux. Tu pensais que j'allais te dénoncer ? »
Ainsi, la possibilité d'être dénoncé fait régner cette peur. Donnons encore un autre exemple. Lors d'une soirée à Kazan avec les chercheurs de l'Institut de physique et des invités, on parle de Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov. L'un des personnages, Madiarov, s'exprime très ouvertement en faveur de la liberté. En sortant, rétrospectivement, Strum, le héros de l'histoire, pense à cette soirée. Et tout d'un coup, il est rongé par la crainte d'une dénonciation. Il va jusqu'à penser que Madiarov est un provocateur. Il lancerait des sujets audacieux pour mieux mettre en cause les participants à la conversation. Car, il ne faut pas l'ignorer, tout est répertorié de la vie d'un homme et plus qu'on ne pense. C'est le communiste Klimov, expert en rapport et en délation de tout poil, qui a fait à son tour la triste expérience. Alors qu'il est accusé, à tort bien sûr, d'avoir voulu nuire au communisme, le juge de la Loubianka, c'est-à-dire du tribunal qui arrête les gens, lui laisse entendre qu'on sait tout de ses fréquentations d'il y a même 20 ans.
Mais tout avait de l'importance. Partout où il était passé, il avait laissé une empreinte. Il traînait une suite derrière lui qui connaissait toute sa vie. Une remarque ironique sur un camarade, un trait d'esprit sur un livre, un entretien de 3 minutes au téléphone, un méchant billet adressé à la présidence au cours d'une réunion, tout cela se retrouvait dans le dossier à ruban. Ses paroles, ses actes y avaient été rassemblés et desséchés composaient un volumineux herbier. Des doigts mauvais avaient patiemment réuni ronce, ortie, chardon.
Comme vous le voyez, le KGB sait tout de la vie de Krimov. La délation, le fichage, fait partie des méthodes courantes du stalinisme et Vassili Groussman les fait vivre devant nous. Mais nous savons aussi que l'Occident n'est pas à l'abri du fichage et de la surveillance intensive. Cette peur conditionne les comportements. Les hommes les plus libres, les plus intelligents, succombent à ce mal terrible qu'est la soumission au jugement des autres. Par exemple, le général Novikov, celui qui a lancé ses blindés avec un superbe talent et une belle audace contre les troupes allemandes, se sent faible au regard des hommes du parti qui le surveillent. Voici un extrait de son monologue intérieur qui évoque son hésitation sur la nomination d'un colonel compétent, Darensky, stationné dans la steppe Kalmouk. Or, Darensky est de famille noble et pour cela, il a été déporté 10 années. C'est un ancien zec, zec veut dire prisonnier déporté. Voici les hésitations de Novikov.
Il n'y a pas longtemps, je voulais caser Darensky, se disait Novikov en s'échauffant tout seul. Il a suffi que Fedorenko fronce le sourcil pour que je fasse marche arrière. J'en ai parlé à Getmanov et à Néoudobnov. Ils ont froncé le sourcil, ils ne voulaient pas d'un ancien zec, et j'ai eu la trouille. Mais pourquoi ? Alors qu'il était persuadé que c'était lui et personne d'autre qui aurait à briser le dos de la machine de guerre allemande, pourquoi était-il si faible et craintif lorsqu'il discutait avec Getmanov et Néoudobnov?
Vous avez bien compris que Getmanov et Néoudobnov étaient des gens du parti qui surveillaient évidemment Novikov. Donc le choix de Novikov pour Darensky n'était pas libre. Compagne de la soumission, la lâcheté. Elle caresse de son aile de nombreux personnages, car la peur souvent l'emporte. Ainsi, Krimov, l'ancien communiste commissaire au peuple dont nous avons parlé, au moment où il est incarcéré, il se reconnaît dans les gens qui ont été déportés ou arrêtés et dont il a fui les familles au moment de la condamnation de Boukharine en 1938.
Au moment du vote, j'ai levé la main. Et puis j'ai signé. Ensuite, j'ai même fait un discours, rédigé un article. Et je crois moi-même à la sincérité de mon ardeur. Mais dans ces moments-là, où sont mes doutes, mon désarroi? Qu'est-ce que cela veut dire? Serais-je un homme à deux consciences? Ou y aurait-il en moi deux hommes, avec chacun sa conscience? Combien de fois Krimov avait-il dit certaines choses, alors que son cœur soufflait le contraire? Mais pourquoi avait-il cessé tout contact avec les familles de ses camarades victimes de la répression?
Cette lâcheté, nous la retrouvons chez Strumme. En effet, après avoir courageusement défendu ses collaborateurs au sein de l'Institut de physique, il est contraint de signer une lettre qu'il désapprouve. Il s'agit d'une campagne contre deux médecins et un généticien. L'Occident décide de dénoncer ces arrestations arbitraires. La lettre, dictée par le Parti communiste, doit apporter un démenti que Tchichachov demande à Strumme de signer. Or, pour Strumme, ces médecins sont tout à fait honnêtes. « Mon Dieu, se dit-il, mais comprenez donc que j'ai une conscience. Pourquoi devrais-je signer cette lettre? Je suis à bout. Laissez-moi la possibilité d'avoir la conscience nette. C'était donc cela? Il fallait encore une fois s'opposer au groupe ?» Strumme, hélas, signe. Il en conçoit une grande culpabilité. Qu'avait-il fait? Car ce qui attend les dissidents, et pour la plupart des innocents, ce sont des interrogatoires sans fin à la Loubianka. Parfois, 2 ou 3 jours d'interrogatoires à la file, sans sommeil. C'est aussi l'humiliation, c'est aussi la torture morale d'avoir à signer ce à quoi on ne croit pas. Ce sont les coups et ce sont les tortures.
Il savait maintenant comment on brisait un homme. La fouille, les boutons qu'on vous arrachait, les lunettes qu'on vous retirait. Tout cela donnait à l'individu le sentiment de son impuissance. Dans le bureau du juge d'instruction, l'homme s'apercevait que sa participation à la révolution, à la guerre civile, ne comptait pas, que ses connaissances n'étaient que sottises. Ceux qui s'obstinaient à revendiquer le droit d'être des hommes étaient peu à peu ébranlés et détruits, brisés, cassés, grignotés, et mise en pièces.
Et pour finir, c'est souvent le camp. À l'extrême nord-est du pays, la Kolyma. À l'extrême nord-ouest, les îles Solovki. Et si la condamnation est renouvelée, 10 ans de camp sans correspondance, il faut traduire par fusillade. La famille de plus est menacée. L'épouse, même les enfants, qui sont livrés à des orphelinats. Appelons cela du terme qui convient, la terreur stalinienne. Le système mis en place est bien le totalitarisme. C'est à la même époque qu'Hannah Arendt, en 1951, publie les origines du totalitarisme en anglais et livre ses analyses dont Grossman n'a pas eu, je pense, connaissance. Qu'est-ce que le totalitarisme? C'est un système qui tient les humains dans ses filets par la terreur et par l'idéologie. Celle-ci repose sur la négation de l'individu et de la liberté. Ainsi, quand on se soumet au parti, plus rien de personnel ne subsiste. Les sentiments personnels, l'amour, l'amitié, la solidarité disparaissent d'eux-mêmes quand ils rentrent en contradiction avec le parti. L'idéologie ne s'entrave pas de morale, car seul le but compte. Voici ce qu'écrit Vassili Grossman. « Au nom de la morale, la cause révolutionnaire nous avait délivrés de la morale. Au nom de l'avenir, elle justifiait les pharisiens d'aujourd'hui, les délateurs, les hypocrites. Elle expliquait pourquoi, au nom du bonheur d'un peuple, l'homme devait pousser à la fosse des innocents. » Un communiste sincère dans l'histoire est mis arbitrairement en camp et s'écrit « Pourtant, le but que poursuit le parti est sacré. » Vous venez d'entendre, chers auditeurs, la première partie de l'émission consacrée au roman « Vie et destin » de Vassili Grossman. L'émission a été préparée et lue par Yvan Davy et Christine Lassalle. Yvan Davy en a assuré l'enregistrement et le montage. La musique qui accompagnait cette lecture était de Chostakovitch. Il s'agit du trio numéro 2, qui est un très beau trio écrit en 1944, c'est-à-dire en pleine guerre. Chostakovitch a été également inquiété et désapprouvé par le régime, mais sans courir malgré tout de risques majeurs. Vous trouverez le roman de Vassili Grossman dans les éditions suisses L'Âge d'Homme. Vous pouvez le trouver aussi en livre de poche ou encore dans la collection bouquins avec d'autres textes de Vassili Grossman qui y sont joints. Donc au revoir chers auditeurs, mais à la semaine prochaine pour la lecture de cette seconde partie de l'émission. À bientôt.
Pour compléter et illustrer cette présentation, voici, dans sa continuité, le trio numéro 2 de Dmitri Chostakovitch.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5.